Bonsoir, comment allez-vous ? Dans le sport, il y a des surprises. Les supporters du PSG ont passé une très mauvaise fin de semaine. Alors, pour se changer les idées, j'aimerais vous raconter une histoire vraie. Celle du cheval Snowman, qui n'était pas un sportif de haut niveau. Ce n'était pas un pur sang, ce n'était pas un cheval de course ni de concours. C'était un besogneux qui tirait des charges. Un malheureux jour pour Snowman, son propriétaire l'envoie à une vente. Je dis malheureux parce que cette vente avait une particularité, les chevaux qui n'avaient pas été vendus partaient pour l'abattoir. Snowman était un cheval qui commençait à se faire un peu vieux et personne ne l'avait acheté. On l'avait parqué dans un camion ou entassé avec d'autres chevaux, ils attendaient le départ pour la boucherie. C'est là qu'arrive Harry, un instructeur d'équitation. Un incident sur la route l'avait retardé et il se dépêchait. Peut-être arriverait-il à temps pour la fin de la vente. C'est à grandes enjambées qu'il passe devant le camion des invendus. Et là, il croise le regard de Snowman. « Sors-moi de là !» disaient les grands yeux du cheval. Et c'est ce qu'a fait Harry. Harry n'était pas un rêveur. Il avait beaucoup d'enfants, une famille à faire vivre, une installation à réussir. Dans des conditions difficiles, nous étions après la guerre, son budget était très serré. Harry n'était pas venu pour s'amuser. Mais il est reparti avec ce cheval en solde, 80$, qui n'avait pas l'air de grand-chose. Harry et Snowman ont gagné les plus prestigieux concours des États-Unis. Et si Harry est toujours bien vivant, Snowman donc est devenu une grande star. Il est mort en 1974, après avoir battu d'incroyables records.
Bonjour, je m'appelle Sarah. J'aimerais connaître la différence entre un pur sang et un étalon. Au revoir.
Quelle est la différence entre un pur sang et un étalon ? Alors Sarah, nous avons proposé ta question à Kamel Boudra, qui est journaliste et animateur à la chaîne du cheval Equidia. Un pur sang et un étalon, Kamel Boudra, c'est pas la même personne.
Ben, ça peut être la même personne, mais c'est deux choses différentes qui parfois sont sur le même animal. Je m'explique. Le pur sang, tout d'abord, c'est une race. C'est une race vieille depuis un certain temps, du XVIIe siècle, qui est en origine d'Angleterre. D'ailleurs, on dit le pur sang anglais, mais on pourrait dire que le pur sang, parce que le pur sang est anglais.
Ah, c'est un pléonasme, le pur
Absolument.
Sang anglais.
Absolument. Donc, c'était des juments d'Angleterre qui ont été croisés à des purs sangs arabes. Ça, c'est pour l'origine. Aujourd'hui, on s'en sert essentiellement pour la course. Et il y a à peu près, en France, 5000 à 100 000 100 naissances de pur sang.
C'est donc une race assez fine de
Oui,
look.
C'est une race qui a beaucoup d'influx, hein, qui est donc très rapide, qui a ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des tissus, c'est-à-dire une peau très belle, souvent luisante, et avec assez peu de poils, par exemple. Hein. Donc, ça brille toujours. Ce sont des chevaux avec beaucoup d'expression, des belles têtes. Enfin, c'est souvent l'idéal du cheval quand on est enfant et qu'on rêve et qu'on regarde les posters. C'est souvent un pur sang.
Le pur sang, élégant, chic.
Absolument. L'étalon, c'est un cheval qui est approuvé dans son studbook, dans sa race, pour reproduire. Parce qu'on ne reproduit pas uniquement lorsque le cheval est encore entier. Un cheval entier, c'est un cheval qui a encore conservé ses testicules, puisque souvent les chevaux de sport ou autres, pour raison de confort et éviter de dangers entre eux, parce qu'un cheval entier est souvent assez dominant comme ça, avec un caractère très très fort, peut devenir dangereux avec ses congénères ou avec l'homme.
Oui, ça serait grosse pagaille, quoi.
Absolument.
S'il y a une jument en chaleur, s'il y a un autre cheval mâle avec lequel il est en concurrence, c'est pagaille.
Il retrouve un comportement grégaire, c'est-à-dire il veut devenir dominant pour pouvoir avoir le droit aux plus belles femelles de son troupeau. Donc, il a le droit de saillir qu'une seule condition, ses origines, ses performances, et qu'il soit donc adopté et approuvé par son studbook. Et là, du coup, il est effectivement entier, ça c'est la moindre des choses pour reproduire,
ouais.
Et donc là, il a le titre, entre guillemets, d'étalon. Mais un cheval entier n'est pas forcément un étalon Noël.
Ce que je comprends, Kamel Boudra, c'est que tout ça est très réglementé. Un cheval entier peut reproduire s'il rencontre une jument dans les champs comme ça tout seul, mais pas de façon organisée.
Oui, alors on a le droit de faire reproduire un cheval que vous avez chez vous avec votre propre jument. Le seul problème, c'est qu'ensuite, pour aller en compétition ou sur des champs de course, il faut des papiers, il faut des origines. Et là, eh bien, vous n'aurez pas le droit à la compétition au champ de course.
Et un cheval castré, Kamel Boudra, ça s'appelle comment ?
Un hongre, H-O-N-G-R-E.
Kamel Boudra est l'un des présentateurs emblématiques de la chaîne Equidia. Il est lui-même éleveur et je crois qu'il a eu le bonheur de faire naître un champion de France, Ramsa Villarose. C'est drôle, hein, comme il y a des termes comme ça dans le monde des chevaux qui nous échappent. Par exemple, je ne vous ai pas dit que Snowman était un cheval blanc parce qu'on ne dit pas un cheval blanc, ni un cheval noir. On dit gris clair ou gris foncé. Je ne sais pas pourquoi.
Bonjour, c'est Fanny, j'ai 9 ans et demi.
Je voudrais savoir pourquoi on ne peut pas avaler la bouche ouverte. Merci, au revoir.
Écoute, Fanny, pendant que tu poses ta question, j'essaye de le faire, mais tu as raison, je n'avais jamais remarqué. Bravo pour cette observation. Nous avons proposé ta question au docteur Marie-Claude Monfray-Fauvadel. Vous êtes ORL, vous êtes phoniatre, vous êtes phonéticienne. Enfin bref, la bouche, c'est votre domaine. Elle a raison.
Mais oui, elle a raison. Bon, il y a des cas où on peut avaler la bouche ouverte, mais il vaut mieux avoir la bouche fermée parce que il y a plusieurs points de fermeture pendant qu'on fait la déglutition. D'abord, on met la nourriture dans la bouche et on ferme les lèvres. Ça, c'est le premier point. On mâchouille, ça fait un bol alimentaire. Il passe au milieu de la langue. Et là, il faut l'envoyer vers l'arrière. Donc, à ce moment-là, la langue monte, ça fait une propulsion. Et il faut que ça passe entre les amygdales. C'est l'endroit où le noyau de cerise ou le bonbon va trop loin et on le perd parce qu'après, ça devient automatique. Donc, cette portion de la déglutition de la bouche jusqu'aux amygdales, ça s'appelle le temps moteur. C'est un temps très conscient, on sait ce qu'on fait, on peut contrôler de la déglutition. Après, une fois que ça a passé l'arc des amygdales, ça s'appelle l'isthme du gosier. Quand ça a passé l'isthme du gosier vers l'arrière de la langue, à ce moment-là, ça tombe tout seul. Ça tombe dans l'entrée de l'œsophage. Mais l'entrée de l'œsophage, elle est située juste en arrière du larynx et des cordes vocales qui, elles, restent ouvertes parce que quand on parle pas, les cordes vocales, elles restent ouvertes et on respire. Alors, si on garde tout ça ouvert, eh ben, au lieu d'aller derrière dans l'œsophage, la nourriture, elle irait devant dans l'arbre bronchique et elle tomberait dans les bronches et les poumons. Et là, c'est pas bon pour la santé.
Donc, en fait, la bouche doit se fermer.
Il vaut mieux qu'elle soit fermée.
Pour que techniquement...
Sinon, on risque la fausse route.
J'ai compris.
On risque la fausse route. Mais si on boit la régalade, vous savez, quand on fait glou, 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 glou comme
oui.
ça, la bouche est ouverte. Mais à ce moment-là, on se met la tête en arrière. Alors du coup, je m'éloigne du micro. On se met la tête en arrière parce qu'à ce moment-là, on évite d'aller dans le larynx.
Ah,
voilà,
c'est
voilà.
Assez judicieusement.
Mais ça exige quand même un petit entraînement.
Le docteur Marie-Claude Monfray-Fauvadel s'intéresse également au bégaiement. Elle a un blog et écrit un manuel du bégaiement, édité chez Solal.
Quelle importance, nous ne nous reverrons jamais.
Parlez-vous anglais, monsieur Catherine ?
Les petits bateaux sur France Inter.
C'est sûr qu'il parle anglais en lui, notre ami Clive Lamming, puisqu'il l'est à moitié, mais c'est en français qu'il écrit ses livres dont vous trouverez les références sur notre site.
Bonjour, je m'appelle Jeanne et j'ai 7 ans. Je pourrais savoir quand est-ce que les femmes ont commencé à conduire des trains. Merci.
Mais que vous avez des bonnes idées, les enfants. Mais oui, la question de Jeanne est formidable. Quand est-ce que des femmes ont commencé à conduire des trains? Clive Lamming, vous êtes historien des chemins de fer.
Il se trouve que je suis historien des chemins de fer, mais aussi que j'ai travaillé pendant 27 ans pour la SNCF, à raison de 1 ou 2 mois par an, à la formation des instructeurs de la SNCF. Et je me souviens très bien que les premières instructrices, bon, femmes qui formaient et qui elles-mêmes conduisaient, c'est dans les années 80. Je vais même vous dire d'une manière plus précise que c'est en 83 que la première conductrice de TGV a commencé. Elle s'appelle Sylvie Guedeville et c'est Giscard d'Estaing qui a permis le travail, la conduite des trains par les femmes, parce qu'il a supprimé, vous savez, l'interdiction faite aux femmes de faire le travail posté. Les 3-8 étaient interdits. Or, les conducteurs, c'est du travail posté, c'est du 3-8. Donc, c'est lui qui, en supprimant cette interdiction, il a dit aux femmes, vous voulez travailler comme les hommes, mais vous travaillez de la même manière. Donc, les femmes se sont trouvées exactement dans les mêmes conditions. Donc, c'est en 83 exactement. Je dois vous dire que, étant à la formation des instructeurs SNCF, je me souviens que les jeunes filles qui étaient apprenties à l'époque, qui allaient devenir conductrices, étaient en général tout à fait excellentes et elles appréciaient de faire ce métier-là. Mais par la suite, c'était les astreintes de conduire la nuit qui souvent, vous savez, les ont fait choisir à ce moment-là des emplois plus sédentaires. Dommage.
Donc, si je comprends bien, Clive Lamming, c'est le TGV qui a également amené les femmes à cet emploi. Il n'y avait pas de femmes conductrices de train sur d'autres trains que le TGV.
Le TGV n'est pas le seul train à avoir permis aux femmes de conduire. Il y avait déjà des femmes qui conduisaient des locotracteurs de manœuvre, des locomotives diesel. Non, ça a été la conduite de toutes sortes de trains. Le TGV est un train comme les autres. Simplement, les conducteurs, hommes ou femmes, ils ont ce qu'ils appellent des autorisations. C'est-à-dire qu'ils passent une sorte de permis qui leur permet de faire tel type de train, ou voire même tel type de ligne. Donc finalement, le fait que ce soit une femme ou un homme aujourd'hui, donc pour la SNCF, n'entre absolument pas en considération. Et je trouve que c'est très bien.
Merci Clive Lamming de nous avoir raconté tout ça en ce dimanche soir qui termine la semaine qui a vu la journée du droit des femmes. Pour poser une question au petit bateau, vous faites le 01 56 40 43 57. Toutes les questions sont les bienvenues.
Bonjour, je m'appelle Harold, j'ai 9 ans et demi. J'aimerais savoir si un peuple de cannibales mange tout ce qu'il capture ou bien s'il choisit.
Harold, bonsoir. Nous avons proposé ta question à quelqu'un qui s'intéresse aux cannibales, Georges Guy Escuret. Vous êtes anthropologue et vous êtes directeur de recherche au CNRS.
La question d'Harold est excellente.
Bravo.
Parce que finalement, beaucoup de gens qui ont observé les cannibales, que ce soit les colons, les explorateurs ou les missionnaires, ont oublié de se la poser. Il y a toujours des règles restrictives dans le cannibalisme admis par une société. Il y a un cannibalisme permis et un cannibalisme interdit. D'abord, même quand il est décidé qu'un captif pris à la guerre va être mangé, certaines personnes n'auront pas le droit de participer. C'est souvent le guerrier qui a remporté la victoire lui-même, qui n'a pas le droit de manger.
Ah bon? C'est celui qui a capturé?
C'est souvent le cas, oui. Absolument. En Amérique, en Afrique, on constate ça. Celui qui est le victorieux n'a pas le droit de manger celui qui l'a tué ou capturé.
Il n'a pas le droit de manger sa prise.
Voilà. Les femmes et les enfants, dans certains secteurs, ça dépend des régions, mais sont souvent interdits de cannibalisme. Et puis, il y a d'autres cas. En Mélanésie, il fallait souvent vérifier que le prisonnier n'avait pas le même animal totémique que certains des villageois qu'il avait capturé.
Comment on peut savoir quel est l'animal totémique?
On lui demandait quand même. S'il était prisonnier, on lui demandait. Et autrement, ça posait des problèmes parce qu'effectivement, il y avait une espèce d'inceste alimentaire, si on mangeait la personne qui avait le même animal totémique que soi-même. Donc c'était un problème. Mais surtout, dans la question d'Harold, il y a quelque chose d'important, c'est qu'il y a souvent, dans une société cannibale, un choix qui se fait au moment de la capture. Et il doit se faire très vite. Ça sera manger ou adopter.
Ah, c'est-à-dire que on parle bien de cannibalisme de guerre.
Hein, oui, oui.
On est d'accord. Quand on a une prise de guerre, donc quand on a un prisonnier, soit on le mange, soit on l'adopte.
Soit on l'adopte, absolument. Ce que nous appelons la loi du talion, c'est-à-dire rendre coup pour coup, n'est qu'une partie du principe qui anime beaucoup de petites sociétés non hiérarchisées à travers le monde. Il faut certes rendre à l'identique les injures que l'on a reçues, mort pour mort, proie pour proie, mais il faut aussi ne pas se laisser son groupe perdre des vies. Donc le but d'un raid guerrier, cela peut être de tuer, mais cela peut être en même temps et dans le même raid, de ramener des vies, des enfants surtout, ou des femmes, pour augmenter l'effectif du groupe.
D'accord. Donc le but, en fait, c'est que le groupe reste vivant et un peu nombreux.
Voilà. C'est ce que les explorateurs et les colons n'ont pas vu. Cette comptabilité minutieuse des pertes et des gains, des morts et des vivants, des parents et des ennemis, on la retrouve à la fois en Océanie, en Amérique et en Afrique. Elle signifie toujours que l'homme mangé est par là même reconnu comme un homme et comme un égal. Il sera adopté ou bien mangé à ce titre.
Si je comprends bien Georges Guy Escuré, c'est une espèce d'honneur d'être mangé.
C'est plus ou moins un honneur, ça peut être un honneur. On peut considérer par exemple que la pire injure qu'un guerrier fidjien pouvait faire à un homme tué au combat et qu'il exécrait et qu'il méprisait, c'était de ne pas le manger. Ça, c'est la chose que l'on n'a pas vue dans les sociétés civilisées face au cannibalisme qui était considéré comme bestial. Et pour une bonne raison, c'est que les civilisés, eux, quand ils font un esclave, le fils de l'esclave sera esclave. Quand les cannibales font un esclave, le fils de l'esclave est un membre de la société de plein droit.
Ça change tout.
Mais oui, ça change tout. Ça veut dire que dans les sociétés civilisées, on conçoit leur relation à l'autre sous forme de hiérarchie et souvent d'humiliation, tandis que dans les sociétés cannibales, il y a une règle de parité.
En vous écoutant, pour finir, Georges Guy Escuré, j'ai l'impression que dans cette pratique, je ne sais pas si on peut dire une pratique, du cannibalisme, il y a quand même un certain raffinement.
Alors ça a été la grande surprise des explorateurs en Afrique qui ont fini par avoir plus de sympathie et de respect culturel pour les cannibales que pour ceux qui ne pratiquaient pas le cannibalisme et qui étaient en général des esclavagistes au service des Européens.
Voilà qui donne à penser. Merci Georges Guy Escuré, docteur en biologie et en ethnologie, qui a écrit « Sociologie comparée du cannibalisme » en 3 volumes aux Presses universitaires de France.
Out of the tree of life, I just picked me a plum. You came along and everything started to hum. Still, it's a real good bet, the best is yet to come. The best is yet to come, and babe, won't that be fine? You think you've seen the sun, but you ain't seen it shine. Wait till the warm-up's underway. Wait till our lips have met. And wait till you see that sunshine day. You ain't seen nothing yet. The best is yet to come, and baby, won't it be fine? The best is yet to come, come the day you're mine. Of the day of mine, I'm gonna teach you to fly. We've only tasted the wine. We're gonna dream the cup dry. Wait till your chops are right for these lobsters around. You think you've flown before, but baby, you ain't left the ground. Wait till you're locked in my embrace. Wait till I draw you near. Wait till you see that sunshine place. Ain't nothing like it here. The best is yet to come, and baby, won't it be fine?
Et voilà, c'était le dernier disque de Bob Dylan sur France Inter, où vous écoutez Les Petits Bateaux. Du temps où nous écrivions au stylo, il y avait une encre très jolie, turquoise, qui s'appelait Bleu des Mers du Sud. Je me suis toujours demandé où étaient ces mers du Sud.
Je m'appelle Zed, j'ai 9 ans et je voudrais savoir pourquoi on a donné des noms aux océans alors qu'ils sont tous collés. Au revoir, merci.
Bonsoir Jade, j'adore ta façon de dire collé. Christian Grataloup, vous êtes professeur avec des élèves un peu plus âgés que Jeanne, puisque vous êtes professeur à l'Université de Paris Diderot. Vous avez également enseigné à Sciences Po et vous avez écrit « L'invention des continents, comment l'Europe a découpé le monde ». Et c'est édité chez Larousse.
Bonsoir Jade. Effectivement, les océans sont plus collés que les continents, bien que l'Europe, l'Asie et même l'Afrique soient assez collés d'ailleurs. Et puis si on prenait les cartes autrement, ça serait que l'Amérique et l'Asie sont assez collés. Enfin bon, donc c'est peut-être pas si différent les continents des océans. Alors, oui, il y a en fait un seul océan. Donc quand on coupe à l'intérieur, c'est un coup de force, c'est une décision, c'est un point de vue à partir de l'Europe, puisque ce sont les Européens qui ont inventé ce découpage-là. Mais il y a en réalité un seul océan. Au fond, on retrouve un vieux mythe grec, celui du titan Okeanos, qui a donné le mot océan, et qui était un grand fleuve qui entourait de ses eaux toutes les terres émergées. Ce qu'on retrouve ensuite dans toutes les cartes jusqu'au XVIe siècle, dans les mappes-monde médiévales, où on voit un grand O bleu tout autour, qui est l'océan, un seul océan. Bien, ensuite, on s'est mis à distinguer des parties de ces océans, parce que ça correspondait à des lieux où les Européens naviguaient de manière différente. Donc, depuis très peu de temps, depuis la fin du XVIIIe siècle, on distingue trois grands océans, l'Atlantique, l'Indien et le Pacifique. En réalité, ces noms sont récents. Dans les cartes du XVIIe ou du XVIIIe, les cartes européennes, les cartes hollandaises en particulier, on disait « mer du Sud » pour l'océan Pacifique, même si on écrivait ce « mer du Sud » au nord de l'équateur, et « mer du Nord » pour l'Atlantique. Et les termes de Pacifique et d'Atlantique n'ont été imposés qu'avec les cartographies anglaises de la fin du XVIIIe siècle. Alors aujourd'hui, on les a officiellement délimités. Il y a un organisme international qui, en fait, trace des traits dans la mer, traits qui n'existent évidemment pas plus que ceux des continents, pour dire là, à tel point précis du globe, on est dans l'Atlantique ou dans l'océan Indien. Il y a une grande ligne tracée au sud du Cap, de la pointe sud de l'Afrique. Alors, tout simplement pour des raisons d'assurance, parce que ça peut être plus cher d'être assuré dans l'Atlantique que dans l'Indien, et donc ou le contraire. Et donc, à ce moment-là, il faut savoir à quel endroit il peut y avoir un naufrage, une collision, enfin. Donc, il y a des raisons pratiques. Mais en réalité, il n'y a qu'un seul océan.
Mais alors, du coup, je me demande, Christian Grataloup, à qui appartiennent ces océans? Si on trouve du pétrole, par exemple, très, 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 très au large, ce pétrole appartiendra à qui?
Alors, la haute mer, c'est d'ailleurs une grande construction du droit international du XVIIe siècle, d'origine hollandaise et anglaise. La haute mer est libre. Elle est à tout le monde. Mais évidemment, on ne se posait pas à ce moment-là la question des fonds marins. Donc, il y avait juste des eaux territoriales. Pendant très longtemps, les eaux territoriales ont été définies par la portée d'un boulet de canon.
C'était
à partir des batteries qu'on mettait sur la côte, jusqu'où on pouvait tirer. Donc, les bateaux pouvaient pas s'approcher. Enfin, les bateaux adverses ne pouvaient pas s'approcher trop près. Mais ensuite, plus l'artillerie a augmenté, plus les eaux territoriales sont éloignées. Mais maintenant, il y a aussi des choses qui vont beaucoup plus loin, qui sont les zones économiques exclusives. À partir du Nil, par exemple, on peut avoir une énorme zone économique exclusive, ce qui fait que la France a la deuxième zone maritime exclusive au monde, parce qu'on possède des petits îlots perdus dans le monde, et ça donne une zone qui, pour le moment, n'a pas gros intérêt économique, mais inversement, peut coûter quand même quelques responsabilités pour y éviter de la piraterie ou des usages désagréables. Donc, la mer appartient en haute mer à tout le monde, mais de moins en moins, on a l'impression que les territoires continentaux se rapprochent progressivement du centre de la mer.
Les petits bateaux sont terminés pour ce soir, mais vous pouvez bien entendu les réécouter, les podcaster, les partager ou venir faire un tour sur notre site. Merci à Julien Chabassu et Jean-Baptiste Audibert, à Marjorie Devoucou et Eliane Girard. Nous nous retrouverons ce soir à 22h pour État d'esprit où nous parlerons avec Sabrina Philippe du phénomène tout à fait étonnant de l'âme sœur qui n'a pas grand-chose à voir avec l'aventure amoureuse.